Minuteur Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Culture Sport, votre émission. C'est votre émission qui est reliée par Attitude 98.3, 90.7 et www.attitudefm.com pour nous suivre. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h15, 19h45. Bienvenue à tous et nous allons accueillir dans quelques instants un invité de choix. Je présente tout à l'heure Dédé. Bonjour mon Dédé, comment vas-tu?
Bonsoir Didier, bonsoir les auditeurs et puis merci aussi à Gilles d'être disponible.
J'accueille Gilles Rouffinia, donc président du district 16. Bonjour Gilles, bienvenue.
Bonjour à tous. Bienvenue également.
Ravi de t'accueillir, donc tu es toujours un interlocuteur de qualité. On a 30 minutes pour faire l'émission, donc on va se baser sur l'essentiel. Tout d'abord, si tu veux bien, une reprise des compétitions il y a un mois, et qu'en est-il ?
Eh bien, je voudrais juste revenir sur la saison dernière pour vous donner un chiffre. On a fini avec 12 600 licenciés à fin mai, puisque les licences sont arrêtées à fin mai, c'est-à-dire 1% d'évolution l'année dernière. Après une saison 2021-22 où nous étions à plus 11%, bon, c'est encourageant et petit à petit on refait notre retard sur la période Covid.
La reprise des compétitions a lieu il y a un mois et donc déjà des problèmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Gilles ?
Alors, peut-être qu'avant quand même, parce que j'étais un peu rapide dans ma réponse, on va revenir sur les problèmes. J'aurais les juste problèmes. Vous donner un point d'information actuel. Globalement, les engagements dans nos différentes compétitions, c'est-à-dire les féminines, les seniors et les jeunes, on est en nombre d'équipes à plus 9,7%. Alors, si on regarde rapidement chez les seniors masculins, eh bien, on a 363 équipes engagées. On a 209 équipes engagées pour 202 l'an dernier, ça fait un 3,5%. Chez les seniors féminines, on a 66% d'évolution d'engagement. On a 12 équipes en foot à 8, avec 6 nouveaux clubs, que je prends plaisir à citer parce que ça montre les efforts des clubs, hein. Bellevigne, Brie, Croin-Cognac, Chasseneuil, Montmoreau, Rouillac, et on a 3 équipes de féminines à 11 également. Sur le championnat des jeunes, eh bien on a 139 équipes engagées sur 120, ça fait plus 16%, je vais arrondir. Donc retenez que en nombre d'équipes engagées, toutes disciplines confondues, on est à presque 10% d'augmentation, avec la création d'un nouveau club à Feuillade, qui va donc débuter, une Feuillade près de Montbron-Marton, qui va débuter en D5. On a l'AS Villebois de Bohême qui reprend son activité en 4e division. Et par contre, on a une dissolution, c'est Excideuil qui a décidé d'arrêter. Et on a une mise en sommeil, Nanteuil-Verteuil, mais qui garde quand même des équipes de jeunes. Voilà. Donc, une situation de départ plutôt encourageante.
Un mois de reprise des compétitions et déjà des problèmes, notamment donc entre Soyaux B en Coupe de Charente. Quelles sont tes réponses à ces problèmes?
Je dirais que c'est pas lié au match de football. C'est pas lié au football. En réalité, ces incidents, ils auraient pu arriver à la patinoire, à l'arrêt d'un bus ou lors d'un festival de majorette. On a fait une réunion jeudi avec les clubs et avec les deux clubs et avec les deux municipalités. En dehors de toute réunion officielle de commission de discipline. C'est une réunion d'échange où chacun a pu exprimer son point de vue. Une réunion positive, respectueuse, avec la volonté de trouver des solutions. Très clairement, tout le monde reconnaît que ces problèmes sont des problèmes extrasportifs, puisque d'une part, les deux équipes sur le terrain et les bancs se sont très bien comportés. Il peut y avoir des fautes de jeu, mais aucun problème. Le club de Soyaux et la municipalité avaient fait le nécessaire pour que ça se passe bien. Voilà, on va dire clairement, une bande de jeunes qui arrive, qui va dans les tribunes et qui met le bazar, sans qu'on sache s'il y a des liens effectifs avec l'un ou l'autre des clubs.
Parfait, Gilles.
Donc regrettable. Je voudrais quand même préciser deux choses parce que on a été malmené, accusé, peu importe le terme, sur la notion du huis clos. Hein, certains, comme je les appelle, certains intelligents sur Facebook, c'est-à-dire que les gens qui ont une certaine facilité à se cacher derrière un pseudo, d'ailleurs souvent aussi nul que les gens qui l'utilisent, ont demandé, enfin se sont interrogés pour savoir pourquoi le district n'avait pas pris de huis clos. C'est très clair, je l'ai expliqué au club, la notion de huis clos est une sanction disciplinaire qui ne peut être prise qu'après qu'il y ait eu des incidents et un rapport. C'est d'ailleurs la commission de discipline qui s'est réunie jeudi dernier, d'ailleurs après la réunion de concertation que j'ai fait avec les clubs, s'est saisie du dossier, a décidé de le mettre en instruction parce que les faits sont graves et on a besoin d'y voir plus clair, mais a prononcé, malheureusement puisqu'il y a eu problème, une décision de huis clos. En revanche, ce que j'ai expliqué aussi, c'est que toute municipalité a la latitude, dans le cadre de la police de ses installations, de déclarer d'elle-même et de façon préventive une interdiction d'accès à ses installations. Donc, voilà, chacun doit assumer ses responsabilités. Nous ne pouvions pas le faire, mais nous l'avons fait depuis.
Je voudrais compléter ce que tu viens de dire, Gilles, sur le fait qu'une sanction ne peut être faite une fois que les faits se sont produits, que ce soit dans la vie professionnelle, sportive, culturelle. C'est exactement la même chose.
Bien sûr. Gilles, je vais à l'extrême parce que j'ai pris cet exemple. Imaginons un club qui reçoive un autre club qui est beaucoup plus fort que lui, qui a peur de perdre et qui a pas envie de perdre chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous demander un huis clos sous n'importe quel motif que ce soit. Merci. On va l'accorder et le club d'en face, le club visiteur, va être pénalisé par une mesure du huis clos qui ne serait basée sur rien. Donc c'est impossible. On peut pas faire. Les règlements sont les règlements. Hein, c'est comme rouler à 90 sur une route ou à 130 sur l'autoroute. Bon, c'est pas le problème. S'il y a une règle, il faut la respecter.
En fonction de ce que tu viens de nous dire, quelles sont les priorités du district pour l'année 2023-2024?
D'abord, je voudrais rappeler que c'est la dernière année de notre mandature, puisqu'il y aura des élections fin 2024, enfin en 2024. Notre devise a toujours été la même, elle est encore plus la même, c'est proche, à l'écoute et utile. Le district n'existe que parce qu'il y a des clubs. Donc notre rôle, c'est d'être à côté des clubs, d'entendre ce qu'ils nous disent et de prendre des décisions, d'imaginer des compétitions, de mener des actions qui leur soient utiles. Donc on aura trois priorités qui sont la poursuite des priorités de la saison dernière. Un, c'est le développement du foot féminin et notamment c'est de permettre aux jeunes filles de jouer entre elles. Donc on va renouveler ce qu'on a appelé les dimanches du foot féminin, qui au passage deviendront les samedis du foot féminin, avec 4-5 rassemblements d'ici la fin de saison, et puis des plateaux organisés par les clubs. Il y en a eu un la semaine dernière à Moutiers, et le prochain a lieu au club de Soyaux. Voilà, donc c'est permettre aux filles de jouer entre elles. La deuxième priorité, c'est le plan de relance de l'arbitrage. L'an dernier, on a mené un certain nombre d'actions, des actions de parrainage, des actions de sensibilisation, un biathlon de l'arbitrage, visite dans les clubs et dans les écoles de foot. On a eu plus 18% d'arbitres. On était le troisième district de la Ligue en nombre d'évolution d'arbitres. On va continuer à mener ces actions. D'ailleurs, je signale qu'il y a eu une formation initiale des arbitres qui s'est déroulée le 7 octobre. Et nous avons 15 nouveaux arbitres, dont 6 JA, c'est-à-dire des jeunes arbitres. Donc là encore, première formation de l'année, 15 nouveaux, des jeunes. Ça montre que les clubs ont intégré le fait que c'est eux qui sont à la base sur le recrutement des arbitres. Nous, district, notre mission, c'est de les former, de les accompagner et de les fidéliser. Mais à la base, c'est bien les clubs qui trouvent les arbitres et voilà. Donc ça se passe bien, c'est encourageant là aussi. Et puis la troisième priorité que j'avais annoncée à l'Assemblée générale, bah, c'est de mener une mission sur la citoyenneté.
Justement, Gilles, c'est apparemment le maître mot de vos priorités en 2023-2024. Pourquoi cette mission de citoyenneté, pardon?
Plus qu'une priorité, j'appelais ça là. C'est notre grande cause pour l'année 2023, la saison 2023-24. Pourquoi? Le football est victime de plus en plus de comportements qui sont incompatibles avec ces valeurs que l'on appelle universelles. Hein, il y a des incivilités, des violences, il y a le racisme, il y a le sexisme, il y a l'homophobie, il y a l'intolérance. Bon, ça c'est incompatible. Ça met notre sport en danger en termes de pratique et en termes d'image. Donc le district souhaite réagir et lutter contre ces comportements. Donc on a décidé, on a décidé en comité de direction, mais je l'avais annoncé à l'Assemblée du mois de juin à Soyaux, de créer une mission spécifique qui est dédiée à cette lutte, et puis de définir un responsable.
Quels sont les objectifs et en quoi cela vous concerne-t-il? Des réponses que tu souhaites
apporter? Oui, oui. Alors, on travaille autour de trois thématiques que j'ai un petit peu évoquées, mais je les reprends rapidement. Il y a les incivilités, la violence, le racisme. Les incivilités, ça peut être des incivilités verbales, des insultes, des provocations, de l'intolérance vis-à-vis du handicap. Et puis, il y a tous les comportements déviants, le harcèlement, le sexisme, l'homophobie, l'alcool, la drogue. Ça, c'est le premier périmètre. Le deuxième périmètre, c'est le domaine de la violence. Et le troisième, c'est donc le racisme, antisémitisme, serais-je tenté de dire, avec ce que l'on vit actuellement. Les objectifs, ils sont clairs. On est là pour prévenir, pour sensibiliser et pour responsabiliser. Donc, tout à l'heure, je faisais référence à notre utilité au club. On est bien dans une démarche d'utilité et d'aide au club parce que souvent, les clubs se trouvent un petit peu démunis face à ces problèmes. Donc, pour remplir nos objectifs, ça veut dire qu'il faudra faire preuve de pédagogie, de formation, de communication et puis d'accompagnement. Là, le troisième volet, c'est les cibles. Alors, je dirais que ça concerne tout le monde. Hein. Alors, je vais pas forcément les donner dans l'ordre, mais il y a les joueurs, toutes catégories, des plus petits aux seniors. Et quand je dis des plus petits, bah, c'est parce que on s'aperçoit que sur nos plateaux U6, U7 et U8, U9, il y a des fois des dérives. Alors, pas forcément en termes de violence, mais en termes d'intolérance, en termes de comportement, en termes de fraternité. Et là, la cible qui est visée, c'est plutôt les parents. Donc, en gros, nos cibles, c'est les joueurs, les éducateurs, les clubs et leurs dirigeants, pardon, les parents, les arbitres, parce qu'ils peuvent être aussi soumis à des pressions intolérables, notamment les jeunes arbitres. C'est la raison pour laquelle on a décidé pendant un an, c'est un dispositif qui existe déjà, mais on décide de les accompagner. Et puis le grand public, et là on sera plus sur des thèmes de communication.
On a bien compris quelles étaient les réponses par rapport à cette mission. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous vous y prendre?
Tout d'abord dans l'organisation. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai souhaité que ce soit une mission, et c'est une mission qui est transversale à toutes nos commissions. C'est-à-dire que c'est pas une commission qui gère ce sujet-là, c'est un homme. Donc j'ai choisi un ancien président de club, Georges Bermejot, qui est l'ancien président de La Roche-Rivière, qui est quelqu'un qui est sensibilisé, alors qui connaît bien le foot, qui connaît bien les clubs, qui connaît bien les problématiques, notamment chez les jeunes et chez les seniors aussi, et qui est, je dirais, appétant à ces enjeux sociétaux. Donc, j'ai décidé d'une mission. Alors, quand je dis j'ai décidé, ça a été validé par le comité de direction. C'est vrai que j'ai été un peu l'aiguillon. C'est une mission transversale avec un responsable qui est indépendant et qui est directement attaché au président. Et quand je dis transversale, c'est pour éviter qu'il y ait un positionnement hiérarchique par rapport à des commissions. ou qu'il y ait des pressions. Donc il a carte blanche pour nous proposer un plan d'action avec la volonté d'associer les clubs. Suite à la réunion à laquelle j'évoquais tout à l'heure avec les clubs de Bassot, de Soyaux et les municipalités, on a des idées pour rencontrer un certain nombre de partenaires, d'interlocuteurs qui vont nous aider. On s'appuiera sur des partenaires. Alors chez les partenaires, il y a déjà l'interne du district, c'est toutes nos commissions sportives, seniors, jeunes et développement du foot féminin. C'est la commission technique, formation, labellisation. C'est la commission valeurs, fair play, éthique. Et c'est la commission innovation. Et c'est là où le rôle transversal de Georges Bermejot est intéressant. C'est qu'il peut travailler avec chacune des commissions, alors que souvent une commission, elle travaille sur un périmètre donné. Elle travaille en silo, en vertical. Lui, il aura une
vision transversale.
Une vision transversale. On aura également des ressources, d'autres ressources internes chez nos équipes techniques départementales. Et puis dans les clubs, il y a une population qui nous intéresse beaucoup, c'est les responsables techniques jeunes, qu'on appelle les RTJ, et qui sont des gens directement concernés. Côté externe, on a des associations comme Omega, qui fait de la médiation sociale. Médiation. On a les centres sociaux, on a les animateurs de rue, il y a la préfecture, les autorités comme le procureur de la République, il y a la gendarmerie, la police. Donc on va mélanger tout ça. On n'a pas encore tout défini, hein, on en est aux prémices, mais il faut absolument qu'on puisse s'appuyer sur nos partenaires parce que très clairement, c'est une mission et un travail qui est collectif. Comme je l'ai dit au club l'autre jour, c'est pas parce que le club ou de Bassot ou de Soyaux, il peut prendre les meilleures mesures du monde. Si l'environnement ne l'accompagne pas, elle n'aide pas. C'est comme si nous, district, on met en place une action donnée. Si les clubs n'y adhèrent pas, on aura beaucoup moins d'impact. Hein. Voilà.
Parfait.
Voilà, donc mes réponses, c'est organisation, responsabilisation et la volonté d'associer à la fois les clubs et tous ceux qui gravitent autour de ces problèmes d'incivilité et d'éducation.
Vous êtes bien sur Attitude, vous écoutez votre émission des sports, Culture Sport, chaque lundi 19h15-19h45, c'est sur Attitude 98.3-90.7, www.attitudefm.com. Nous retrouvons donc Gilles Rouffignat, le président du district, qui répond aux questions de Dédé, donc notre mémoire vivante, notre encyclopédie vivante du sport en Charente.
Oui, Gilles, tu parlais d'une nette progression chez les féminines. Alors, comme on est limité, évidemment, tu l'auras compris dans l'émission. Est-ce que tu peux, alors, c'est l'effet de quoi? Et d'autre part, 70%, tu peux nous décrire un petit peu les championnats. Donc, il y a des championnats à 8, à 11. Tu peux nous expliquer tout ça?
Je vais faire un zoom. Alors, la première question, c'est l'effet de quoi? Je crois que c'est l'effet de la de conscience des clubs, qu'il y ait une place pour le foot féminin dans tous les clubs, hein, parce que je rappelais tout à l'heure Belleville, je sais pas si tout le monde sait où
c'est un non-avis.
Ouais, mais toi tu connais bien, monsieur. Mais alors mais ça veut dire la volonté de réserver aux filles la possibilité de jouer, donc je trouve ça très bien. Bon, c'est un fort potentiel de développement parce que ce que font les clubs en Charente, c'est ce que font d'autres clubs, et c'est sous l'impulsion de la Fédération française de football. Hein. Oui, alors, pour répondre à ta question précisément, en foot à 8 chez les filles, je vais pas te donner de chiffres chez les jeunes parce que je ne les ai pas encore définitivement. Puis c'est la Charente-Maritime pour les jeunes, c'est-à-dire U14, U17, etc. C'est une action conjointe avec Charente-Maritime et ceux qui pilotent le dossier. Hein. Mais pour le foot à 8 senior chez nous, on avait 6 équipes, on en a 12 cette année. Donc les nouveaux clubs Belleville, Brie, Croin, Chasseneuil, Montmoreau, Rouillac. Mm-hmm. Pour le foot à 11, on a 3 équipes comme l'an dernier. Alors il y a Cognac qui a arrêté, mais on a Jarnac qui engage cette année 2 équipes. Ce qui fait qu'on a un total de 15 équipes engagées par rapport à 9, ce qui fait donc 66,7% d'augmentation. Et nous, district, on est bien sûr, on constate avec plaisir l'augmentation importante d'équipes de foot à 8. C'est quand même plus difficile de faire une équipe de foot à 11. Commençons par le foot à 8, et si ça peut prendre, c'est un peu comme en senior avec notre critérium à 7, où on a commencé avec 9 équipes, l'année d'après 18 et 33 cette saison, quoi. Voilà. Donc, souvent, il faut enclencher le mouvement.
Et c'est réparti comment dans le championnat?
La citoyenneté. Donc, est-ce que vous avez déjà des idées d'action?
Ouais, je vais revenir sur la citoyenneté. Oui, oui, on a des idées d'action. Il y en a même qui ont déjà commencé. Donc, autour de la pratique, on a mis en place, on avait fait un test l'an dernier et on le redémultiplie. Cette année, c'est l'action Touche pas à mon foot. C'est très simple et on va la mettre en place sur les plateaux U6, U7, U8, U9. C'est très simple. On demande à chaque club qui accueille un plateau de désigner un ou deux dirigeants, alors dirigeants ou dirigeantes, qui sont repérables parce qu'on leur a fait un chasuble vert avec le logo Touche pas bon foot. Et ces gens-là, bah, ils sont là d'une part pour faciliter l'organisation du plateau, mais également pour remonter ce qui marche pas, ce qui a posé problème, mais également ce qui marche bien. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être quelque chose que les clubs avaient pas bien compris l'an dernier. C'est pas une action pour faire de la délation, simplement de dire bah moi j'étais tel jour à tel plateau. Bon bah les horaires ont pas été respectés. Il y avait pas d'accueil quand on est arrivé. Mais par contre, il y a un truc qui était super bien, c'était telle action. Et l'objectif, nous, district, après, c'est de pouvoir traiter avec les organisateurs de plateau ces points à la fois les points d'amélioration et au contraire les points de valorisation. Et les bonnes pratiques, c'est beaucoup plus intéressant de les démultiplier et de les valoriser, quoi. Donc, voilà, ça touche pas mon foot. Alors, c'est des observateurs. Qui n'ont pas de fonction officielle sur la feuille de match et dans l'organisation du plateau, mais qui sont plus des yeux, des oreilles pour faire progresser les clubs. Après, on mettra en place dans certaines actions, notamment autour de la journée des débutants en juin et du festival U13 Pitch, l'action carton vert, hein, qui permet de valoriser des actes de citoyenneté, de solidarité, de fair play, hein, parce que je répète, bien sûr c'est important de savoir ce qui va pas et puis d'agir pour donner des solutions aux gens. S'il y a des choses qui marchent, faut surtout pas se priver de le faire sympa, de le absolument. Faire savoir.
Absolument.
Et après, on a une troisième action autour des jeunes, qui est le plan éducatif fédéral. Alors c'est une action qui a été mise en place par la Fédé. La Fédération française de football, il y a au moins 4-5 ans minimum. C'est une action qui est méconnue des clubs. Alors elle est méconnue des clubs et donc elle n'est pas utilisée et qui permet, allez, je vais dire, qui permet de faire passer du stade de footballeur au stade de citoyen. Et donc sur lequel il y a des volets développement durable, solidarité, responsabilité, bien manger, bien se comporter, éducation. Et ça, je veux absolument qu'on en fasse un axe fort de notre animation des écoles de foot.
Donc, je suppose que c'est pas les seuls axes de tes réponses par rapport à ces idées d'action. Il y a d'autres actions à imaginer, peut-être, non?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je l'ai esquissé tout à l'heure, mais puisque tu me donnes la possibilité de revenir dessus, je vais le faire. Comme notamment chez les jeunes, alors pas chez les U6, U9, mais chez entre cet âge-là, entre les U11 et les seniors, comme on dit sur des populations, notamment en ville, en quartier urbain, où le foot et le reste des problèmes se mélangent, et on l'a vu, c'est un de nos constats donc dans la réunion de jeudi, faut absolument qu'on travaille en concertation avec les centres sociaux, avec les acteurs jeunesse. Il y a également une... Voilà, donc on va les réunir, on va y changer, parce que nous, à part la volonté de faire quelque chose, très clairement aujourd'hui, on n'a pas forcément les actions à mettre en face. Mais comme ce sont des gens qui connaissent très bien ce périmètre et cette cible de, de jeunes, il faut qu'on s'appuie sur eux. Alors, ça peut être un observatoire des comportements. Je sais qu'il y a une action aussi, les promeneurs du net, qui permet de, qui est une action associative nationale, qui permet d'avoir, comment dire, une vigilance par rapport aux réseaux sociaux. Bon, il faut qu'on s'arme de façon à pas découvrir des phénomènes alors qu'on aurait peut-être pu être prévenu. Dans le même esprit, il y avait depuis 2018 une cellule prévention des incivilités et de la violence qui avait été mise en place par un préfet de la Charente avec le service ex-jeunesse et sport. J'ai rencontré vendredi le nouveau responsable de ce service. Alors c'est le SDJES, Service départemental jeunesse, éducation et sport, Jérôme Bonifay, avec une de ses collègues. Donc on est convenu de se revoir prochainement et de réactiver, enfin ça leur appartient, mais de réactiver cette cellule. Une autre idée qui pourrait être un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait au Covid, pour le Covid ou contre le Covid, pardon, d'avoir un référent incivilité ou un référent citoyenneté dans chaque club pour responsabiliser les clubs, mais aussi pour les aider, parce que je le répète, on peut avoir des clubs pleins de bonne volonté, mais qui à un moment donné ne savent pas comment faire ou savent même pas à qui s'adresser. Donc nous maintenant au district, on a un référent, c'est Georges Bermejo. On en a un deuxième, c'est Marcel Buisson, donc on va bien clarifier les rôles entre eux. Mais d'avoir un contact, ça peut aider des clubs, même s'il n'y a qu'un club qui un jour nous demande une aide, eh bien on aura gagné notre mission. Parfait. Et puis une autre idée là, qu'on a évoquée hier, à part le titre, il faut qu'on l'organise, c'est toujours pour valoriser, parce que je veux pas qu'on reste dans ces domaines de la sanction, sur du curatif, il faut qu'on fasse de la prévention. On a imaginé qu'on pourrait mener une action, le club sympa, qui viserait à valoriser un club, simplement parce qu'il se tient bien, parce qu'il respecte ses adversaires, parce qu'il y a un public agréable, voilà. Donc ça reste à imaginer. Donc il y a beaucoup de boulot. Je pense d'ailleurs que l'année sera un petit peu trop courte pour mener tout ça.
Pour cette dernière année de mandature, Gilles, quels sont les autres grands projets pour la saison? Et on conclura là-dessus.
Je crois que les grands projets, j'en ai parlé. Effectivement, c'est notre dernière année de mandature. À la fin de la saison 23-24, il y aura des élections. Comme nous, on a été élus l'équipe actuelle en 2020.
Tu te représentes?
Pardon?
Tu te représentes?
Il y a une chance sur deux, je ne sais pas encore.
Voilà, ça fait 50-50.
Voilà, c'est ça, oui, ça fait partie des réflexions en cours. Donc, on va se focaliser sur notre plan trajectoire 2024, sur lequel on a été élu. Et puis, aussi, il y a quand même un truc que je voudrais ajouter, une information, c'est que c'est un projet qu'on avait voulu mettre en place l'an dernier, qu'on n'a pas pu faire pour des questions d'infrastructure. Mais cette année, on va faire un grand week-end des finales de coupe sur deux jours. Donc, le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin, sur le stade Lebon, grâce à l'aimable collaboration de la ville d'Angoulême, on veut organiser les finales jeunes, les finales féminines, les finales de coupe et les finales de championnat. Donc ça sera ce qu'on a toujours appelé la grande fête du foot charentais, sans véritablement, enfin on n'a pas pu la rassembler. Voilà, on va faire ça ce week-end-là. Ça permettra de finir en apothéose notre mandature.
Je voudrais revenir 30 secondes, puisque c'est la fin de l'émission, sur ce qui vous est cher également, c'est les coupes Charentes qui a encore connu un grand succès il y a de cela un an, enfin un petit peu moins d'un an maintenant.
Au mois de juin, oui. Alors ça fait partie de ce que je viens de dire, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un samedi où on a les coupes Charentes, un dimanche après on a les coupes féminines, une autre fois on fait les championnats, il faut qu'on arrive à tout faire en même temps. Bon, ça pose des problèmes d'occupation du stade. Faut dire aussi que pour les bénévoles du district qui sont mobilisés, ça permettrait d'avoir un week-end de mobilisation. Et ça serait un petit peu plus facile à vivre, y compris sur un plan personnel. Oui. Ainsi quand même, je voudrais juste rajouter, il y a un autre fléau que j'ai pas évoqué, mais je crois que j'y arriverai pas à le vaincre, c'est la bêtise, l'intolérance et le manque de respect Alors, vous connaissez tous la formule « la critique est aisée, mais l'art est difficile ». Il est effectivement plus facile de critiquer avec le courage, de se cacher derrière un pseudo, je l'ai dit tout à l'heure, aussi nul que celui qui l'utilise, plutôt que d'agir et de s'engager. Ça n'est pas encourageant pour les bénévoles du district, puisque je rappelle que comme dans les clubs au district, y compris le président, nous sommes tous des bénévoles, c'est pas encourageant de se faire bâcher par des imbéciles, je cache pas mes mots, à qui on ne peut même pas proposer un contact puisqu'on ne sait pas qui ils sont, alors que moi je prends la responsabilité quand je réponds à quelqu'un de signer de mon nom et de ma faction. Donc ce fléau-là est très important, très complexe, et je pense qu'il faudrait plus d'une mandature pour pouvoir l'éradiquer.
Parfait, Gilles. C'est avec plaisir qu'on t'aura suivi tout au long de cette mandature. Tu es un interlocuteur de qualité, je l'ai déjà dit, donc qui nous plonge dans le monde du football amateur, sur lequel on voit qu'il y a un gros travail à faire, et que déjà toi et ton équipe avez répondu à pas mal de problèmes. Sans les éradiquer, le dis-tu, mais c'est une question de longue haleine, et tu as raison de le souligner. Donc encore une fois, merci Gilles d'avoir accepté notre invitation, merci pour ta disponibilité, merci pour ton professionnalisme, pour construire avec nous ensemble cette émission. Donc on te dit à très bientôt, on aura l'occasion de se rappeler au courant du mois de mai et juin prochain.
Merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir, Gilles.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci, Gilles.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va parler des résultats des clubs charentais ce week-end avec des sports co et du judo en fin de journal. On va commencer par le football et la Coupe de France. Ils ont joué le 5e tour de cette épreuve nationale avec notamment 4 clubs charentais qui étaient encore en lice. Dans l'ordre chronologique des rencontres, l'ACFC se déplaçait du côté de l'Avenir 79. Qualification des hommes de David Jiguel par 5-0. Une qualification acquise notamment grâce au but en première mi-temps, notamment marqué par Marquez, Buisson, Marchesso, qui ont permis vraiment à la CFC de prendre de l'avance en seconde période. Koulibaly et Siganda ont également marqué, ce qui fait que la CFC s'est largement qualifiée face à une formation de Régional 2. Justement, de Régional 2, l'Alliance 3B défiait une Nationale 3, même débordé de division, hein, puisqu'il y avait 3 divisions d'écart, et malheureusement, c'est une défaite 3-0 pour les Barbesiniens, qui réalisent malgré tout un très bon parcours en Coupe de France. On avait également Ruffec qui recevait Panazol, Ruffec formation de R3, qui recevait Panazol formation de N3, défaite 1-0 des Ruffecois. Dommage, parce que les Ruffecois ont raté un penalty pour l'égalisation. Malgré tout, beau parcours pour les Diables Rouges. Enfin, un dernier club charentais en lice, Sireuil qui recevait Villeneuve-d'Ornon. Donc là, il y avait une division d'écart, hein, une R2 contre une R1. Malheureusement, Sireuil, malgré un but marqué dès la première minute, s'incline et se fait éliminer. Donc prochain tour, dernier tour régional, le 6e tour, avec l'ACFC qui sera le dernier représentant charentais. Nous connaîtrons son adversaire jeudi lors du tirage au sort. En championnat, un championnat morcelé bien sûr, hein, les équipes qui étaient qualifiées en Coupe de France n'ont pas joué en championnat, donc plusieurs matchs reportés, mais en Régional 2 on a quand même des résultats, avec notamment la défaite de Merpin chez le leader Cause 2-0, la victoire de Leroy contre Échiré 3-0 en R2. En R3, le match nul de Confolens à Autise 1 partout. En R3 toujours, la victoire de Jarnac du côté de Ligugé 5-0. Et la défaite de Cognac contre Basso dans le derby charentais du week-end 2-0. Et en poule D, victoire de La Roche-Rivière 2-1 contre Ille. Défaite de Puymoyen 5-1 contre Saint-Savin-Saint-Germain. Défaite également de Champigny 4-2 du côté de Limoges-Beaubreuil et de Soyaux à domicile contre la réserve de Couzex-Chapla. En revanche, victoire de Vindel 3-2 contre Saint-André de Cubzac. En division 1 de district, je vais donner les scores, avec la victoire de Leroy à Cognac 5-0, match nul entre Ruel et Brie 2 partout, victoire de Moutier contre Linard 2-0, Victoire de l'Alliance 3B à Saint-Michel 4-2. Victoire de Sireuil contre les Portugais du Gond 3-1. Et victoire de l'Essac à Merpin 3-1 également. En D2, poule A, victoire de Mornac 3-0 contre Montbron. Victoire de Charente-Limousine 2-0 du côté de Chasseneuil. Victoire de Roulet à Chantenier 1-0. Victoire de Ruffec 3-1 contre Ruel. Victoire de Aigre 2-1 contre Fléac. La rencontre entre Brigueuil et La Roche-Rivière a été annulée. En poule B, victoire de Verdy 2-1 à Saint-Ariex. Victoire de Nersac 3-0 du côté de Montmoreau. Saint-Brice a gagné 2-0 contre Saint-Séverin. Grande-Champagne a gagné 1-0 à Jarnac. Puymoyen a gagné 7-0 contre Sud-Charente. Et le terrain où il fallait absolument être, c'était à Clé, puisque Clé et Bel Air font match nul, 6 partout, 12 buts inscrits dans cette rencontre. On va parler de rugby désormais avec le SA15 qui s'est incliné vendredi soir à domicile contre Mont-de-Marsan, défaite 28-18 des Violets. On en a parlé précédemment dans le SA15 Mag Attitude. Cognac s'incline également sur le fil contre le leader Salle, défaite de Cognac 30-32. Cognac donc subit une nouvelle défaite, malheureusement sa deuxième défaite de suite. L'UBJ en Fédéral 1, l'UBJ qui se déplaçait à Nafarroa, défaite de l'UBJ 42-27, donc lourde défaite pour les hommes de Jean-Ric. En National 2 de handball, National 2 masculine, l'ETEC qui recevait Tardets, victoire de l'ETEC 33-21, l'ETEC est troisième du classement avec 13 points. Enfin, on va parler de judo avec les trois couronnaises de la couronne Grand Angoulême Judo qui étaient du côté de Malaga. Les trois ont été classés dans les 7 premières puisque Morgane Artuis en moins de 57 kg termine 7e, Marie Desangle en moins de 70 kg termine 7e également, et Ilana Bouvier, médaillée mondiale le week-end précédent, termine 3e également, une nouvelle médaille de bronze pour Ilana Bouvier en moins de 78 kg. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.